Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes nombreux là, hein ? C'est bizarre. Quel plaisir. Je vous regarde un peu. Qui est là ? Alors, c'est vrai qu'on a déjà appris des choses ce matin. Donc, si vous êtes ingénieur, ça met du temps. Peut-être. Mais sachez que Jésus est patient. Ça, on a aussi appris. Il n'est jamais dans la précipitation. Il va vous parler. Et le plus important, c'est peut-être tendre l'oreille. Parce qu'il y a des moments où Dieu vous parle, où Dieu nous parle, mais nous ne sommes pas à l'écoute. N'est-ce pas, Christophe ? Je crois que moi et lui, on est deux valeureux dans la non-écoute du Seigneur. Il a parlé 7 ans et demi, je crois que je ne suis pas loin. Je ne suis pas loin de lui. Vous savez, le plan de Dieu est de ramener tout le monde dans sa maison. Et quand un orateur, moi aujourd'hui, doit partager un message, on a envie que ce soit le bon message. On a envie de donner les bonnes paroles. Alors depuis ce matin, c'est la guerre de mon cerveau, ça part de tous les côtés, ça fuse comme on dit. Donc aujourd'hui, je vous promets, je vais rester dans mon texte pour une raison aussi principale, c'est que les deux dernières fois, ma femme, au bout de 40 minutes, a dû intervenir et me faire comme ça. Donc, je vous promets qu'aujourd'hui, elle ne fera pas comme ça. Et j'aimerais bien que votre attention soit au maximum. Et pour cela, les grands spécialistes disent qu'on ne doit pas dépasser les 20-25 minutes. Donc, voilà. Mais ces 5 minutes ne valent pas. Hein. C'est l'intro pour l'instant. Voilà. En tout cas, pour commencer, une chose. J'aimerais bien que vous regardiez votre voisin de droite ou de gauche, et que tu dis une chose, si tu es venu pour que le Seigneur te parle et te donne quelque chose, sache qu'il te l'a déjà donné. Tu peux le dire, il te l'a déjà donné. Alors, il te l'a déjà donné. On va dans quelques minutes lire dans Luc 15 cette fabuleuse histoire, ce qui est connu en principe par tout le monde, la parabole du fils prodigue, et pas le fils prodige, comme mon fils Paolo aime bien me dire de temps en temps. Et elle est connue aussi sur un autre nom de la parabole du fils perdu, parce qu'on parle en réalité de fils perdu. Et une petite précision, on dit le fils perdu, mais en fait, il y en a deux dans cette parabole. Et vous verrez. Je vais m'attarder plus dans l'histoire du fils cadet, parce que je pense que le Saint-Esprit voulait vraiment que je vous partage ça. Et je terminerai un peu avec le fils aîné. Alors, on va quand même lire d'abord. Je vais lire. Ça, je le fais bien. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils, les deux. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune et en menant une grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci envoya dans le champ garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais donc me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme un fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Synonyme, serviteur. Pensez un peu à ce que Stéphane a partagé. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père, et comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit : « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le-lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda : « Qu'est-ce qui se passe ?» Le garçon lui répondit : « C'est ton frère. Il est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit : « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. » Serviteur. « Et jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau, c'est plus petit qu'un veau, pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie. Il était perdu. Voici qu'il est retrouvé. » Moi, rien qu'à la lecture, j'ai les sanglots, j'ai l'émotion qui monte, parce que cette histoire est fantastique. On va planter le décor rapidement. Qu'est-ce que nous apprenons ? Qu'est-ce que nous apprenons ? Nous avons un père, un propriétaire, sûrement d'une belle maison. On va faire un peu d'imagination. Imaginez-vous dans le Brabant wallon, une grande ferme avec des grandes terres, avec beaucoup d'animaux, et une belle vie dans cette ferme, une belle vie. Alors, qui est ce père ? Dieu. Alors, qu'est-ce que nous apprenons ? C'est que Dieu, il a une famille. Il a une famille. Dans cette famille, il y a des enfants. Et on est bien dans la maison de Dieu. Alors je rajoute, normalement, on est bien dans la maison de Dieu. C'est bon. La parabole va nous faire évoluer dans des sentiments humains que nous tous avons connus. Et le premier sentiment que je vais vous partager, c'est la convoitise. Le premier sentiment de convoitise a commencé au tout début de la création dans, comme disait Rich, dans Genèse. Mais qu'est-ce qu'ils étaient bien dans ce jardin ? Qu'est-ce qu'ils étaient bien ? Imaginez le jardin d'Éden avec des milliers d'arbres, avec des fruits. Il ne manquait rien. Mais la convoitise, cet arbre avec le fruit défendu. Et l'histoire se répète à longueur d'année. Et là, le fils, il était bien, mais sûrement, la convoitise, a-t-il entendu que dans cette terre lointaine, il y avait mieux, il y avait autre chose. Vous savez, l'ennemi a l'art de rendre plus agréable certaines choses de la vie que nous n'avons pas encore en main, mais on entend, c'est la convoitise. Et nous sommes des êtres humains. Et donc, ce fils cadet est tombé dans cette convoitise. Parce qu'on peut se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il décide, jour au lendemain, et il va chez son papa. Et il dit, hé, papa, mon argent. Je veux mon argent. Alors imaginez un instant, par rapport à mon papa ici présent, je suis le fils cadet. Imaginez, il y a 30 ans, je vais chez mon papa, je lui dis, papa, mon argent. Selon vous, qu'est-ce qu'il aurait dit? Moi, je dis qu'il n'aurait pas dit grand-chose. Il aurait fait, regardez, la gestuelle. Mais imaginez, dans l'éducation juive, c'est encore pire. Imaginez qu'on ne parle que d'héritage à ce temps-là, uniquement et seulement uniquement s'il avait un décès. Donc imaginez un peu ce fils cadet, dans sa tête, son papa était mort. Il a tout quitté parce que dans son esprit, son papa était mort. Et donc, après la convoitise, et ce jeune cadet quitte la maison, on arrive dans ce deuxième, on va dire, sentiment, situation, l'égarement. Il s'égare. Il part, nous dit le texte, dans une terre lointaine. Mais comment est-ce possible que un enfant de Dieu, quand il est loin du Seigneur, il a une seule envie, c'est de s'éloigner de la maison. Mais non seulement s'éloigner juste en bordure, très loin. Et on a tous connu ça. J'essaie de vous évoquer certains sentiments. Est-ce que nous n'avons pas vécu des moments dans notre vie où on se sentait loin de notre Créateur? Et le sentiment plus naturel, c'était d'être loin de la maison du Père, ne pas venir aux réunions. On a un frère qui nous appelle, « Oh non, je n'ai pas envie de répondre, il va encore m'embêter avec ses balivernes », et ainsi de suite. C'est extraordinaire. Et donc, le moment de l'égarement, il faut imaginer qu'est-ce qui se passe, c'est que voilà, on a plein de choses qui se passent dans la tête, et j'en ai marre de mon papa, je voudrais sortir avec mes amis, avec qui j'ai envie de rentrer quand je veux, et tout ça, ça travaille le cerveau, ça travaille les cerveaux, juste à provoquer le départ. L'éloignement. Et après l'égarement, il y a la déchéance. Si on lit le texte, ce qui est vraiment assez choquant, c'est que cet enfant cadet était prêt à tout. Il était dans le parc à cochons. Il n'avait plus rien. Il était prêt à manger la bouffe pour les cochons. Enfin, imaginez un peu, les caroubes. C'est vous dire qu'est-ce que, au niveau mental, il était loin. Il n'y avait plus de connexion. Il était loin. Et là, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il commence à souffrir. Il souffre famine physique, famine affective. Alors, j'essaie juste de vous suggérer quelques sentiments. Moi, je les ai vécus, peut-être vous aussi. Si je vous dis famine morale, famine spirituelle, famine physique, famine affective, imaginez qu'est-ce que ce jeune enfant cadet était occupé à vivre, à subir. Mais c'était son choix. Il n'y a personne qui l'a mis dehors. C'était son égarement. C'était sa convoitise. Et là, quand il a atteint le point le plus bas, imaginez-le dans le parc à cochons en train d'essayer de prendre cette nourriture pour les cochons. Mais que dit le texte? Il se mit à réfléchir sur lui-même. Heureusement, Dieu merci. Et je rends gloire à Dieu qui donne par la puissance de son esprit à tout enfant de Dieu qui le désire de réfléchir et de faire autocritique. C'est-à-dire que quand vous atteignez le point le plus bas, à un moment donné, il faut revenir. Et quand on revient, on voit ce qu'on avait. On voit ce qu'on n'a plus. Et il y a la réflexion qui va se faire. Et on réfléchit comme l'enfant cadet. Et que dit l'enfant cadet? Mais enfin, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent. Il se souvient de la maison du Père. Il se souvient où était la source. tous les ouvriers de mon père peuvent manger à satiété. Et moi ici, je suis occupé à crever dans un parc à cochons. Vous savez, tous les attraits de la vie finissent par terminer et sont remplacés par le désir de Dieu. Tous. Vous savez, j'avais une pensée et je me disais, tiens, si aujourd'hui, imaginons une famille normale avec 40 ans d'épargne, vous avez économisé 100 000 euros et votre fils vient et vous dit, papa, je veux ma part, et vous lui donnez 100 000 euros. Aujourd'hui, combien de temps pensez-vous qu'il va tenir avec 100 000 euros? Un an maximum. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un an? Il va revenir. J'ai fait un exemple juste pour que vous compreniez, mais on a d'autres situations où ce n'est pas forcément les 100 000, évidemment. J'aime bien faire des exemples pour que vous compreniez. N'importe quelle décision on fait en tant qu'enfant de Dieu, si on prend le mauvais chemin, si on s'écarte de la maison de Dieu, si on s'écarte de la vraie source, il y a l'égarement. On perd les bénédictions. Évidemment, il n'y a personne ici présent qui veut vivre de tels moments. Personne. Mais je dois quand même vous dire que ça arrivera. Des moments d'égarement vont arriver. Mais, là où je peux témoigner, haut et fort, c'est que je rends gloire à Dieu. Parce que dans ces moments-là, on pourra toujours, toujours compter sur notre Père. Toujours. Alors, après l'autocritique, nous avons ce moment de la repentance, qui est très peu cité, mais le moment de la repentance, pour moi, est quelque chose de très important. Et on va lire, en revenant dans le texte, au verset 18, qu'est-ce qu'il dit ? C'est dans le parc à cochons que la repentance démarre. C'est dans le parc à cochons. Il dit, je vais me mettre en route et je vais me relever et j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché. Et sûrement, le fils cadet n'a pas dit ça avec légèreté. Dans la situation morale de souffrance dans laquelle il était, c'était dans ses tripes. Il a vraiment demandé pardon. Vraiment. Et vous savez, Jésus ne vous laissera jamais seul. Le pardon n'est jamais isolé. Jamais. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on doit vraiment prendre conscience que la repentance, elle doit vraiment être une repentance. Si vous avez une repentance légère, elle ne sera pas suivie d'une action de grâce du Seigneur. Je ne dis pas qu'il faut... Non, je m'égare. Je continue dans mon texte. La conversion. Se convertir, ça... Vous savez, après la repentance... Il y a la conversion. La conversion, c'est un synonyme, c'est-à-dire revenir du point vers lequel on s'éloignait. Et c'est ça qui se passe dans le fils cadet. Il y a l'égarement, il y a la repentance et enfin la conversion. Je pense que des fois, il faut vivre certaines choses pour pouvoir les expliquer. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'un père ? Et dans l'esprit d'un fils qui ont vécu cette situation. Alors, je voulais demander à mon fils, Junior, de se lever et de juste imaginer. Reste là. Tu peux rester là. Imaginez maintenant le papa. Regardez le texte. Qu'est-ce qu'il dit ? Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils. Se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez prendre et chercher un habit. » Et à l'époque, c'était des tuniques. Parce que l'enfant est parti tellement loin et il était tellement souillé par l'égarement que son père l'a pris et l'a revêtu de sa plus belle tunique, de ce plus beau pardon. Je voulais juste donner une image à quelque chose. Et si Lucas pouvait témoigner 2 minutes.
Donc voilà, moi c'est Lucas Junior, le fils de Lucas. Voilà, donc moi j'ai connu Jésus pendant toute mon enfance. Je connaissais Jésus, mais je n'étais pas proche de lui en fait. Et pendant toute mon enfance, j'étais quelqu'un de gentil, mais j'avais beaucoup de mauvaises influences et j'étais beaucoup influencé à faire beaucoup de conneries. Jusqu'au jour où j'ai fait vraiment une grosse connerie, j'ai parlé des détails. Et quand j'ai fait cette connerie, je me suis dit, mon père, il ne va pas laisser passer ça, je vais me faire charcuter, quoi. Et donc pendant 2 jours, j'ai fui mon père. Je me suis caché chez mon oncle, chez ma mère. Enfin, je ne voulais pas voir mon père, en fait, parce que je pensais vraiment que ça allait très mal se passer. Et finalement, j'ai quand même dû le voir. Donc, j'ai été voir mon père. Et moi, je pensais que j'allais être cuit. Et quand j'ai vu comment mon père m'a accueilli avec un amour, un pardon, j'ai compris que l'amour de Dieu est vraiment très grand et que il n'y a vraiment personne, mais personne qui est trop sale pour revenir à Dieu. Et voilà, si donc avec mon témoignage, j'espère que ça va vous aider et que n'ayez pas honte en fait. Dieu nous aime et il est notre Père en fait. Voilà.
Merci, tu peux prendre ça avec. Vous savez, la repentance ne s'arrête jamais à un remords, jamais. Mais elle va jusqu'au pardon parfait de Dieu. Ouais. Vous savez, ce qui m'a touché encore et encore, je connaissais ce texte, qui ne le connaît pas, mais c'est qu'à aucun moment, on peut lire un mot de reproche du Père. Et mon invitation aujourd'hui, parmi toutes les choses que je voulais partager et dire, c'est que on a tellement de situations dans la vie pour pointer le doigt sur quelqu'un et lui faire des reproches. Et non, il y a tellement, tellement plus bon d'amener son amour, l'amour que Jésus nous a enseigné. On obtiendra beaucoup plus avec l'amour de Jésus qu'avec un reproche ou un regard un peu de travers. Oui, donc en fait, Dieu, notre Père, a la capacité d'effacer tous nos péchés, toutes nos pensées tordues, tout ce qui ne va pas. Il balaye tout ça, comme un coup d'éponge. Parce que la prochaine étape, c'est la réhabilitation, c'est le rétablissement, c'est le retour dans la maison du Père. C'est de toute façon le plan de Dieu, d'une façon ou d'une autre. Il veut que nous retournions tous dans la maison du Père. Ça va, 5 minutes. Et voilà, en fait, là j'ai parlé du fils cadet. Et qu'est-ce qu'il en est du fils aîné? Qu'est-ce qu'il en est? Pendant ce temps-là, le fils aîné travaillait au champ. Il n'a pas arrêté. Et sur le chemin du retour, il entend de la musique. Et il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a un serviteur qui dit, ah, c'est ton frère qui est revenu. Non seulement il a tout dépensé, quel culot, il revient. et en plus ils font la fête. C'est vrai, ça c'est une pensée humaine. Quel culot! Mais la pensée de Dieu, c'est quoi? Vous savez, je vais vous demander juste la seule fois aujourd'hui de prendre vos Bibles en Matthieu 6, 31 jusqu'au verset 33. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous. Avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus. Pourquoi j'ai choisi ce verset? Parce que le fils aîné, vous avez l'exemple typique d'être dans la maison de Dieu, mais vivre comme un esclave isolé. Le fils aîné, contrairement au cadet qui avait développé un esprit d'orphelin, il a dû partir pour voir et comprendre. Le fils aîné était dans la maison, mais il était isolé. Il était esclave de son être. Il n'a pas compris un des versets les plus fantastiques de la Bible, de faire du royaume de Dieu son unique préoccupation. Et toutes les autres choses vous seront données en plus. Il avait tout à la maison, le fils aîné. Il avait tout, mais il n'a pas compris quelle était la source. Son père. Le père le dit, mais tu avais tout. Tu pouvais tout avoir, mais il était en train de travailler, en train de faire, isolé comme un esclave. Et aujourd'hui, la parabole, c'est une proposition d'échanger votre vie d'orphelin ou votre vie d'esclave en vie de fils et fille de notre Père. C'est dans la maison du Père qu'on est sous sa protection. Dans la maison du Père. Mais si nous avons compris la source, la vraie et unique source. Et donc aujourd'hui, la question est légitime. Je dois vous la poser par rapport à la maison du Père. Où te situes-tu? Difficile à prononcer. Où tu te situes? Voilà. C'est ça qu'il faut réfléchir. Tu peux être dans deux situations. Ou bien, par égarement, tu es loin de la maison du Père. Et on a dit que ce n'est pas grave. Jésus est patient. Juste, tu dois te rendre compte que le fond est atteint. Il faut revenir. Ou tu es dans la maison du Père en train de jouer l'esclave. Et ce n'est pas grave non plus. Il faut juste prendre conscience. Et revenir au point de départ. La source. Dans la maison du Père, ça je vais les lire, on se sent bien. Dans la maison du Père, je vais dire je me sens protégé. Dans la maison du Père, je ne me sens ni orphelin, ni esclave. Dans la maison du Père, j'ai accès à toutes ces choses qu'on vient de dire, toutes ces choses autres. Dans la maison du Père, il n'y a pas d'égarement. Dans la maison du Père, il y a la vie, il y a la joie. Il y a l'amour, il y a la paix. Alors j'espère avec ce message avoir pu opérer une petite croissance, une compréhension du grand mystère du plan de Dieu. Ce qui est sûr, c'est qu'il veut que nous tous présents revenons dans sa maison en effaçant notre esprit d'orphelin, en effaçant notre esprit d'esclave, mais avec une certitude, nous sommes ses enfants, fils et filles du royaume. Alors, quelle meilleure façon de célébrer cela? À sa table. Vous savez, parce que toutes ces choses ont une seule valeur. Si on a la compréhension de qu'est-ce que Jésus a fait à la croix. Il a donné sa vie pour que nous ayons accès à toutes ces bénédictions, pour que nous effacions notre esprit orphelin, notre esprit esclave, à la croix. Un seul sacrifice a suffi pour effacer tout cela. Plus besoin de veau gras, de chevreau ou autre chose. Plus besoin. Juste comprendre que Jésus, à la croix, il a tout donné. Il a tout donné. Il a donné votre accès à la maison du Père, notre accès à la liberté, notre accès à se sentir fils et fille du royaume. Soyez bénis.